Alors Catherine Vanier, on va maintenant changer de décor, et c'est le cas de le dire, parce qu'on va aller à la Comédie Française. J'ai rencontré Denis Podalydès, qui est bien sûr sociétaire de la dite Comédie Française, qui est aussi auteur, metteur en scène. Il a fait 10 ans d'analyse, et il m'a raconté qu'au début, il faisait l'acteur. En fait, il allait à pied chez son analyste, et il préparait ses séances, en fait, il les répétait, comme, comme oui. pourrait le faire un acteur. Voilà, on s'est installé dans sa loge.
Où est-ce que vous... Asseyez-vous dans le... Si vous voulez, fauteuil.
Et je lui ai demandé dans quel état d'esprit il était lorsqu'il a décroché son téléphone pour prendre son premier rendez-vous.
J'étais sous le coup d'une dépression et qui était assez violente et c'était un appel au secours. J'ai eu un sentiment, une fois j'ai dit ça, j'ai eu le sentiment d'y être allé à quatre pattes chez l'analyste. Donc voilà, j'étais vraiment dans un... C'était pas à ce moment-là une sorte de choix... C'était un choix quand même réfléchi, mais c'était sous le coup d'une grande urgence.
Est-ce que vous vous souvenez des premiers entretiens ?
C'était encore des séances qui n'étaient pas au divan. On commençait toujours par un entretien préalable. Et je sais que j'ai une des premières phrases que j'ai dit, c'était « Je crois que j'ai complètement perdu le sens de l'humour. » Et je l'ai dit évidemment sans aucun humour. Et c'était pour moi un des symptômes les plus graves qui m'arrivaient, c'est que je n'étais pas drôle et je ne riais plus de rien. Et pourtant, la gaieté est une chose qui m'est assez naturelle, de rire des blagues des autres et de faire moi-même des blagues. Enfin, j'ai dit ça, mais j'ai dit comme si j'avais perdu une clé, si j'avais vraiment perdu le sourire ou le rire, et que ça équivalait à la perte d'une clé. Et je ne sais plus ce qu'il m'a dit, il a associé ça... Et mon œil est tombé au même moment sur des objets qui étaient posés sur un petit tabouret. C'était des blagues à tabac. Il m'a dit, des blagues, voilà, vous en avez là. Alors voilà, des petites choses comme ça, et qui, dans les premiers temps, qui m'ont permis d'ouvrir quelques minuscules portes. Ouais.
Vous avez décidé, à un moment donné, avec lui, de vous mettre sur le divan. Pourquoi ?
Je ne sais plus là comment je me suis mis au divan, mais ça a commencé.
Ça a changé quoi, le divan ?
Le divan, c'est le début pour moi du roman. Quand je dis du roman, c'est-à-dire j'ai eu le sentiment qu'à l'horizontale, de ma bouche, sortait vers le plafond quelque chose comme un roman. Mais la différence, il n'était pas écrit, qu'il n'était pas destiné à la publication, qu'il était juste destiné à l'oreille de l'analyste et aussi à la mienne, à m'entendre moi-même, d'une certaine manière, publié dans l'air. Je dis roman parce que, d'abord, le statut d'écrivain est une chose dont j'ai tellement rêvé, enfant, j'ai tellement rêvé écrivain, que d'une certaine manière, ça rejoignait un peu ce rêve de raconter pour moi, pour cet analyste, de raconter cette histoire comme un roman ou d'en faire un roman et donc de mettre à distance tout ce qui m'était arrivé depuis que je pouvais raconter ça. C'était cette mise à distance un peu, de donner une forme à tout ça.
Ça me fait penser à une expression de Freud qui parle de l'autre scène en parlant de l'inconscient. Mmh. Est-ce que c'est à votre avis ce moment-là effectivement où... votre inconscient pouvait surgir ?
Oui, il fallait l'autre scène, oui, je connais bien ça, d'autant que j'en parle énormément, comme mon métier était acteur. Justement, ce qu'il fallait essayer d'éviter, c'est de faire de cette scène de l'analyste une pure scène de spectacle, que ce ne soit pas une mise en spectacle, mais c'était quand même l'autre scène, la scène de l'inconscient sur laquelle il fallait monter. Et d'ailleurs, il a fallu déjouer énormément de fantômes, d'obstacles, parce que je n'avais de cesse que de me faire l'acteur, disons, en essayant de faire le beau, en essayant de donner un roman acceptable, en essayant de construire une version beaucoup plus à mon avantage des choses. Et donc, il fallait déconstruire en permanence les faux tréteaux sur lesquels je ne cessais de me pavaner pour monter sur l'autre scène, ouais.
Qu'est-ce que vous avez découvert de vous que vous ne soupçonniez pas du tout ?
Que je pouvais avoir un certain courage. Moi qui m'en sentais totalement dénué et qui en nourrissais une sorte de honte à ne pas être courageux. Je me souviens de conversations avec mon frère sur qu'est-ce qu'on aurait fait pendant la résistance, pendant la guerre, est-ce qu'on aurait été résistant? Et moi, je ne sais pas, je m'étais tout persuadé que je n'aurais pas été résistant ou que j'aurais été résistant, mais j'aurais donné tout le monde sous la torture. Enfin bon, j'en avais vraiment développé un espèce de roman de la lâcheté. Et oui, par l'analyse, par une sorte de pratique récurrente, comme ça, de ces séances, de se mettre à chaque fois devant l'obstacle. C'était pendant que je montais un spectacle qui me coûtait énormément, dans lequel je détestais tout, en fait, tout ce que je détestais, c'était surtout moi dans l'affaire, et que j'ai quand même fait ce spectacle. Je n'ai pas annulé les choses que je devais faire. Or, tout me coûtait énormément. Voilà, peut-être ça, d'avoir un tout petit peu de courage.
Est-ce que vous avez le sentiment que ça a pu modifier des choses dans votre travail et peut-être dans votre rapport aux autres en général ?
En fait, ça change tout. C'est des tout petits détails comme ça qui changent tout. Le fait de me sentir un tout petit peu courageux fait que j'ai pu, même dans des situations assez périlleuses, d'un point de vue professionnel, comme dans la vie, me dire, mais il faut continuer quand même. Je ne vais pas abandonner. Je ne vais pas partir maintenant. Je ne vais pas m'enfuir. Je vais rester jusqu'au bout. Je ne sais pas donner de leçons générales là-dessus parce que je sais très bien qu'il y a des personnes pour qui l'analyse ne saurait probablement rien apporter, ou soit qui n'ont pas rencontré la bonne analyste, soit que leur complexion, leur système de référence, de pensée, les attacherait à une autre forme de thérapie ou une autre façon de se mettre devant les questions. En tout cas, moi, pour ce que j'en sais, sans aucune magie, sans rien de mystérieux d'ailleurs, sans rien de mystique, quelque chose s'est opéré au cours de ces 10 années d'analyse et a libéré quelque chose, je ne saurais même pas dire quoi. Il y a un certain apaisement qui est venu, une certaine distance qui s'est mise entre moi et certains affects qui me valaient de vrais symptômes, même physiques, assez douloureux, pénibles, qui se sont estompés tout simplement. Donc, je ne dis pas la psychanalyse, c'est miraculeux. Je crois qu'il n'y a aucun miracle, justement. C'est ça qui est difficile à penser. Il n'y a rien de magique, il n'y a rien, même pas de poétique, d'ailleurs. Je parlais de roman, mais c'est un roman qui n'est pas précisément pas destiné à être poétique. C'est une certaine confiance dans le langage aussi.
Vous êtes un littéraire, un amoureux des mots, vous écrivez, vous interprétez aussi les mots des autres. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre rapport au langage ou aux mots, la psychanalyse ?
Ah oui, j'avais déjà une très très grande sensibilité à tout ce qui affleure avec les mots, à tout ce qui est dit, et comment c'est dit, au style d'ailleurs, au style conscient et inconscient. Ça a accru, par exemple, il y a un grand préjugé pour les artistes, c'est ne fais pas d'analyse parce que tu vas tuer la poule aux œufs d'or. Tu vas mettre le nez dans ton inspiration, tu vas tout comprendre, tu vas tout savoir, et du coup, tu seras plus capable de... comme s'il fallait être dans le noir le plus total pour produire et créer. Et alors ça, je pense que c'est archi faux. Au contraire, moi, ça a aiguisé mon appétit de connaissance, mon appétit de découverte, la faculté d'émerveillement, une certaine quand même facilité à sentir où est-ce qu'il y a de la beauté chez quelqu'un dans une chose, à aller regarder les choses d'une certaine façon, à problématiser aussi des choses, avec dans le rapport aux acteurs. Quand je suis metteur en scène, je me nourris beaucoup de ça, pour savoir bien les écouter, comprendre là où ça achoppe. Quelquefois, un acteur, vous comprenez, il n'a pas un problème de mémoire, pas du tout. Il retient mal le texte, mais c'est parce que le problème est ailleurs. Et il faut remonter. Quelquefois, vous comprenez que c'est son partenaire qui lui a dit quelque chose, ou en fait, il n'ose pas dire à ce partenaire, en fait, ça me gêne comment tu joues. Et c'est constant. C'est une attention à l'autre, quand même, assez aiguë. Et on parlait beaucoup de ça en analyse de musique. Une façon d'écouter à travers la parole des autres une certaine musique, qui est quelquefois la musique d'une plainte, quelquefois la musique d'un affect qui travaille la parole et qu'une oreille moins exercée n'entend pas. On n'entend pas quelqu'un souffre parce qu'il fait le clown, par exemple. Il fait le malin, il parle beaucoup. Ça, c'est tout à... l'analyse. Alors après, on voit très bien ceux qui ont fait des analyses, parce que alors là, quelquefois, ils surjouent.
À quoi ?
Comment ?
À quoi est-ce qu'on voit les gens qui ont fait une analyse ?
On les repère très très vite. Il y a une certaine. Alors souvent, les gens qui sont... on repère ceux qui sont en analyse ou ceux qui en ont fini, qui sont passés à autre chose, enfin qui ont mis un certain écart entre eux-mêmes et l'analyse. Alors, c'est des gens qui parlent plus lentement. Des gens qui parlent plus lentement, puis qui vous regardent avec les yeux un peu plissés, comme ça, et qui, si vous faites état, je ne sais pas, de tel ou tel état, essayent de vous faire creuser votre propre discours, ou vous font savoir qu'eux-mêmes sont en train d'éprouver des choses plus secrètes. Enfin, probablement même une certaine affectation, comme ça, dans le discours, dans le langage, dans le comportement. Souvent, ça dénote quelqu'un qui en passe par là. Il y a des mots aussi. Vous voyez des gens dont le langage change parce qu'ils sont en analyse et que leur analyse, souvent, soit qu'ils utilisent un langage freudien, lacanien, ça teinte comme ça la parole des gens. Et d'un seul coup, il y a un mot symptomatique qui vous fait dire « Ah, celui-là, il en est, si je peux dire. » Finalement, il y a beaucoup de gens qui en passent par là quand même et qui passent par des thérapies, bon... souvent au mépris de la psychanalyse elle-même, parce que la psychanalyse est peut-être ce qu'il y a. Évidemment, c'est très très long. La psychanalyse, c'est un si long processus qu'on a le temps de l'oublier. Et d'ailleurs, cet oubli aussi fait partie du travail analytique, je pense. L'oubli des séances, un certain oubli. Parce que tout oubli, en même temps, permet, c'est comme la marée qui se retire, permet que des choses réaffleurent. Comme des galets, comme ça, des pierres ou des petites crevettes prises dans des choses réaffleurent, et celles-là, vous les oubliez pas. Et donc, il faut que des choses passent comme ça, que le temps, il faut que du temps passe. Il faut beaucoup, beaucoup de temps. Enfin, souvent, une séance, elle produit son effet. Quelques années après, vous repensez à un détail, une chose qui a été dite. C'est comme on a commencé en faisant des associations, c'est de relier, en fait. Relier des choses qui sont apparues au fil d'une parole vivante, en fait. Ce qu'il faut, c'est avoir une parole vivante. Moi, souvent, en analyse, il y a eu des séances perdues, mais ce n'est pas une parole vivante, c'est une parole trop préméditée, une parole qui se surveillait elle-même. Et ça, on met beaucoup de temps avant de pactiser avec sa propre bêtise et de laisser enfin affleurer de la bêtise. Parce que là interviennent d'ailleurs des choses très belles, je trouve. Quand on... Comme quelqu'un qui dit oh, bah, je suis bête. C'est souvent très émouvant, quelqu'un qui dit oh, qu'est-ce que je suis bête, j'ai dit ça, pardon. Ça met sur un terrain d'humanité qui est assez, assez fort et qui permet une. Alors là, pour le coup, une communication réelle, je trouve.
Comment ça se termine, une analyse ? Comment ça s'est terminé pour vous ?
C'était très mystérieux. Je me posais vraiment la question. Au fil du temps, avec un analyste, il y a comme des objectifs qui sont mis en place. Je ne sais pas, il y a une personne qui... Ça va avec le fait d'avoir un enfant, ou de se marier, de rencontrer l'amour, d'obtenir le rôle que ceci, cela. Tout ça, plus ou moins tacitement d'ailleurs, parce que c'est jamais établi comme ça, mais je pense que... Je me souviens plus très bien d'ailleurs. Un certain objectif était atteint, une certaine stabilité dans ma vie, le dépassement de certaines peurs et de certains symptômes très forts qui fait que l'analyse commençait un peu à tourner en rond. Ça ne me coûtait plus rien d'alimenter comme ça.
Ça ne vous coûtait plus rien, c'est-à-dire ?
Ça coûtait de l'argent, mais j'avais gagné entre-temps, au fil de mon analyse, j'avais gagné de plus en plus d'argent. Et mon analyse quand même faisait monter un peu quand même les tarifs. Mais ça ne me coûtait plus que de l'argent. Et à ce moment-là, je vivais très bien. Et donc, c'est comme si ça me coûtait pas en... Je sais pas, il y avait plus ce travail un peu tendu, comme ça, de recherche, de quête, avec des trouvailles, des doutes. Et donc, c'est lui. Hein. On s'était dit ça. Je ne sais plus qui a dit, l'a dégainé le premier, qui a dit, je crois qu'on est arrivé au bout. Je crois que quelqu'un, l'un ou l'autre, l'a dit, et l'autre a dit oui. Alors, je crois que c'est moi qui ai dit ça. J'avais peur de ça, en fait. J'avais très, très peur de dire, en fait, voulant toujours plaire à tout le monde, j'avais très peur de dire, je crois que c'est fini entre nous. Et là, il y a eu 10 séances. On a choisi de faire 10 séances de résumé, 10 séances qui recouvrait, qui remontait. Et ça a été des séances absolument passionnantes, d'ailleurs. Ça a été une sorte de récollection. On a reparcouru toutes les années passées. Et ça s'est terminé là. Et jamais après, ça ne m'a manqué.
Comment est-ce que vous définiriez ce lien au psychanalyste ?
Ben, je crois que c'est le transfert quand même. Il se passait un transfert. Je ne sais pas, j'ai projeté en lui un lien de parenté, un lien avec mon père qui n'avait sans doute probablement jamais existé avec mon père. Il occupe la place qui a manqué dans votre existence, que personne n'a jamais rempli dans votre existence et qui a créé un désordre, qui a créé des affects, qui a une souffrance. Voilà, moi je crois que c'est ça. Et c'est pas du tout magique, ça. C'est créé parce qu'on se donne les moyens en allant régulièrement chez telle personne, en lui disant tout. Et par contre, ça suppose chez l'analyste cette espèce d'oreille musicale, parce que ce que dit un analyste, c'est pour ça je pense qu'il parle si peu, parce qu'il faut mesurer leur parole, ça a une importance gigantesque. Donc je pense qu'un analyste, il a une bombe dans les mains. Quand il voit arriver quelqu'un qui est dans un état de grande fragilité, il peut le rendre fou, il peut le plonger plus loin dans sa dépression, conduire au suicide. Il a une responsabilité énorme, et avec des mots. Donc, il faut un manieur de mots, et qui sache aussi le poids des mots, qui sache la vérité du silence, qui sache tout ça. Et ça, c'est très rare. Je crois que c'est vraiment des métiers, c'est pour ça que dans la société d'aujourd'hui, c'est si peu considéré. Je trouve que les psychanalystes sont très mal considérés. Très mal, je sais pas, il y a tant d'ironie, tant de moquerie sur la psychanalyse, alors que la plupart des gens, même ceux qui sont en psychothérapie, c'est des dérivés de la psychanalyse. Tout ça n'aurait pas existé sans Freud. Donc il y a des gens qui ne savent absolument pas tout ce qu'ils doivent à Freud, à Lacan, à tous les psychanalystes, et qui vont vers les produits dérivés, quoi. Je trouve que la psychanalyse n'est pas assez considérée aujourd'hui. Elle l'a été, ça a été dans les années jusque. Ça va avec. Un certain mépris des intellectuels, un certain manque de reconnaissance accordé aux intellectuels. Depuis que la télévision règne sur tout, voudrait régner aussi sur le savoir, c'est pas une chose qui passe si facilement à la télévision. Alors on donne pas assez de place à ça, mais je crois que c'est un des gros problèmes, curieusement, du temps.
N'est pas fou qui veut. Tous les dimanches de l'été sur France Inter à 14h.